Si vous êtes l'un des 13 197 habitants des 26 communes de la communauté de communes Creuse Grand Sud, vous avez peut-être déjà lu un des 13 bulletins d'information appelés ici les habitants. Impossible de parler de cette initiative sans aborder la situation de la Comcom Creuse Grand Sud. Vous ne l'avez certainement pas oublié, cette communauté de communes creusoise traverse une crise budgétaire ou financière qui est certainement aussi une crise politique. On peut lire dans le rapport de l'État sur la situation financière de la Comcom que, je cite, « l'encours de la dette est passé en 2 ans de 3,880 millions d'euros au 31 décembre 2013 à 9,293 millions d'euros au 31 décembre 2015 ». Cette crise budgétaire a éclaté au grand jour le 22 septembre dernier, avec la démission de Michel Moine de son poste de président de la Comcom. Y avait-il pensé ? En tout cas, cette démission survenait la veille de la deuxième fête de la montagne limousine, qui a eu lieu du 23 au 25 septembre dernier. C'est à l'occasion de la réunion de clôture de cette fête de la montagne limousine que cette démission, mais surtout la situation de la communauté de communes, a été évoquée collectivement. La question principale était bien de savoir comment les citoyens pouvaient se renseigner et agir sur l'avenir de cette Comcom. Un rendez-vous a même été donné pour approfondir cette question le lendemain, 26 septembre. Nous recevons ce soir Michel Lulek, en sa qualité de citoyen présent ces 25 et 26 septembre dernier, et rédacteur occasionnel et diffuseur actif du bulletin d'information « Ici les habitants ». Voilà. Bonsoir Michel, comment allez-vous ?
Bonsoir, ça va ?
Ça va bien, merci beaucoup d'être venu. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la naissance d'ici les habitants, que j'imagine être issue de cette réunion post-fête de la montagne limousine et d'émission de Michel Moine ?
Tout ça est arrivé au moment où est arrivé à la connaissance de tout le monde, par la presse, et puis y compris manifestement à la connaissance des élus de la communauté de communes, la situation financière catastrophique dans laquelle elle se trouvait, donc ce trou de 4 millions d'euros, etc. etc. Mais très vite, donc le jour où une soixantaine d'habitants s'est réunie pour dire comment nous, en tant que habitants de ce territoire, on se sent concernés ou non par cette histoire, et qu'est-ce qu'on a envie de savoir, qu'est-ce qu'on a envie de chercher, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de comprendre. On s'est tout de suite aperçu que, et vous l'avez évoqué dans votre présentation, il ne s'agit pas seulement d'une crise financière, il s'agit globalement d'une crise politique, d'une crise démocratique, d'une crise qui reflète un fonctionnement politique très courant malheureusement dans notre société d'aujourd'hui, qui fait que d'un côté il y a des élus qui du reste ne sont pas tous manifestement au courant de ce qui se passe dans la structure dont ils sont pourtant membres, et puis de l'autre, mais avec un fossé abyssal on va dire, les habitants, les citoyens, à qui on demande une fois tous les 5 ans 4 ans, 6 ans, d'aller voter pour désigner des représentants. Et ce qui a été très vite dit dans les échanges qu'il y avait entre ces 60 personnes ce soir-là, c'est de dire, bon, on ne peut pas faire confiance à des gens qui soient gèrent n'importe comment, bon, c'était le cas de Michel Moine dans cette histoire, manifestement, voire qui font de fausses délibérations. Il y a une procédure judiciaire qui a été lancée à ce sujet, puisque des élus de la Comcom se sont retrouvés dans le compte-rendu d'une réunion qui n'a jamais existé. Donc, il y a vraiment un dysfonctionnement fort. Mais de manière plus générale, on ne peut pas non plus faire confiance à 46 élus qui semblaient découvrir au bout de 2 ans que ça fonctionnait comme ça. Et donc, on se dit, quand il y a un manque, quand il y a une lacune, quand il y a vraiment un dérapage, il y a 2 solutions. Soit on se dit c'est comme ça et puis on fait rien, donc on baisse les bras. Soit on se dit il faut faire quelque chose. Et si faire quelque chose, c'est faire confiance à un autre élu, à une autre personne, c'est peut-être mettre le pied à l'étrier à un nouveau président qui, dans 1 an, 2 ans, fera peut-être les mêmes bêtises. Alors bon, il y a un nouveau président, je ne l'accuse pas de faire ces mêmes bêtises. Mais du coup, je pense qu'il faut que les citoyens soient vigilants, hein, on va dire citoyens vigilants, non pas pour dénoncer le voisin ou le voleur de pommes dans le jardin de son voisin, mais plutôt pour vérifier que le mandat que nous avons remis à ces élus en les élisant soit fait sérieusement, consciencieusement, et nous, on a un rôle en tant qu'habitants pour ne pas faire que les choses se passent toutes seules, se passent sans nous. Et puis, je dirais de manière plus générale, finalement, cette question, c'est aussi une manière de commencer à réfléchir à ce que pourrait être la politique demain, à ce que pourrait être la démocratie demain. Il y a quelque chose à réinventer. On a mis en exergue d'un de nos petits bulletins une phrase de Gandhi qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. » Eh bien, je pense que ça, c'est en partie la philosophie qu'il y a derrière ici les habitants. C'est-à-dire que même l'élu bien intentionné, vous savez, Jean-Jacques Rousseau disait il n'y a rien de plus dangereux qu'un bon roi parce qu'il justifie la royauté. Mmh. Ben, d'une certaine manière, même un bon élu, lorsqu'il fait le bien de sa population sans elle, finalement, il le fait contre elle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retisser comme s'il avait bien été tissé un jour. Disons, il faut inventer le tissage d'une relation du politique avec le territoire, avec les habitants, avec les citoyens, qui soit différente. Et ça demande une éducation à la fois des élus politiques, mais à la fois des citoyens et des habitants. Parce que ce n'est pas parce que je le dis comme ça à un micro que tous les habitants ont envie de prendre part à la chose publique. Donc c'est un travail vraiment sur le long terme. Et l'exercice que nous faisons à partir de cette histoire de com-com, finalement, n'en est qu'un premier pas.
Et du coup, lors de cette première réunion des habitants, à quel moment est venue l'idée de faire une lettre d'information ?
Eh bien, je crois que c'est venu au cours de cette réunion, parce qu'en fait, cette réunion a été vraiment organisée très vite, parce que le surlendemain, il y avait le conseil communautaire qui se réunissait, et que
le premier sans Michel Moine,
et donc on s'est dit à cette réunion plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on s'est dit, il faut absolument aller à ce conseil communautaire pour écouter ce qui se dit. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais si on n'y va que pour écouter, c'est insuffisant. Il faut aussi y aller pour dire ce qu'on a envie de dire sur cette institution qui est notre institution. Autant, elle est autant à moi qu'au président actuel ou au président passé. Et donc, lors de cette réunion, on a débattu, chacun a fait des propositions. Un tel a dit qu'il faudrait mettre ça en avant, tel autre a dit qu'il faut dire absolument aussi ça. Bon, on n'était pas tous d'accord du reste sur les sujets. Il ne s'agissait pas de se mettre d'accord. Et du reste, c'est pour ça que ce soir du conseil communautaire, il y a eu 8 habitants qui ont pris la parole et qui ont lu un texte qu'ils avaient préparé. Il ne s'agissait pas d'improviser, de bafouiller. Il s'agissait de dire une parole construite, qui soit entendable, et voilà. Et donc, ça, c'était la deuxième chose. Donc, première chose, on y va pour écouter ce qui se dit. Deuxième chose, on y va pour porter ce que nous, on a envie de dire. Et puis, la troisième chose qui a été dite, c'était, nous, on est un peu au courant, là, on est 60 dans cette salle, on est un peu au courant, on est en train de se donner des informations, mais il y a 13 000 et quelques autres personnes sur ce territoire, dont un certain nombre qui sont demandeurs d'informations, qui se posent des questions, et on se dit, il faut aussi qu'on fasse en direction de qui le souhaite un travail d'information, c'est-à-dire que nous, tout ce qu'on sait, on va le dire, on va le rendre public. Tout ce qu'on a envie de dire, on va le transmettre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une page Facebook ici, les habitants.
Aussi, tout à fait, sur laquelle, du coup, j'ai pu prendre connaissance du rapport de l'État sur la situation financière de la Comcom. Et je vous en remercie.
Voilà, par exemple. Et puis, qu'on s'est dit, tout le monde n'est pas un accro de l'ordinateur, de Facebook et de ces outils-là. Donc, on fait un petit bulletin qui est très modeste. Hein, c'est une page recto verso qu'on sort aussi souvent qu'il est nécessaire de la sortir pour essayer de donner un petit peu toutes ces informations qu'on retrouve souvent de manière beaucoup plus large, développée sur effectivement la page Facebook. Ça, c'est pour dire que si quelqu'un veut se tenir au courant, bah c'est très facile. Il suffit qu'il envoie son adresse mail à notre adresse ici, les habitants, que vous donnerez peut-être à la fin de l'émission.
On peut la donner maintenant et à la fin de l'émission.
Alors, c'est ici les habitants, tout attaché, avec un S habitant, puisqu'il y en a plusieurs. Ici les habitants, @illico. ILICO, il n'y a qu'un seul L, ça veut dire Internet libre en Corrèze, hein, c'est un serveur associatif corrézien, ilico.org. Ici, les habitants, @ilico.org. Alors, vous envoyez votre adresse et vous recevrez le bulletin sur votre boîte mail dès qu'il sortira. Par exemple, bulletin numéro 14 devrait être diffusé ce soir, donc vous le recevrez en soirée.
Et du coup, donc là, on en est au numéro 14. Le premier, c'était vers le 5 octobre. Mettons le
28 septembre.
Le 28 septembre, n'importe quoi.
Bah voilà, ça fait
le 5 octobre, c'est la date de l'élection du nouveau conseil communautaire. Il y a beaucoup trop de dates, je me mélange. Vous disiez que les feuilles paraissent quand ça semble nécessaire, oui. Quand il y a d'autres informations du coup.
Voilà, ben, les deux ou trois premières, les premières sont sorties, on avait pratiquement deux chaque semaine. Bon là, on a un peu calmé le rythme parce que d'abord... Mais là, par exemple, l'actualité se reprécipite. Donc il y a le rapport de la Direction régionale des finances publiques qui vient de sortir. Donc effectivement, on l'a mis sur le site pour que la page Facebook pour que les gens qui veulent le lire puissent le lire. C'est un rapport un peu compliqué quand même, donc il faut prendre le temps, mais il y a sûrement parmi les 13 000 habitants de la communauté de communes un certain nombre qui sont tout à fait compétents pour le lire et le comprendre.
Alors, je peux rassurer les 13 000 habitants, je n'ai aucune connaissance ni capacité en comptabilité et pourtant je pense bien avoir saisi au moins 75% du rapport.
Bon, bah c'est très bien. Et donc s'il y a des habitants par exemple qui le lisent et qui peuvent nous en faire une analyse un petit peu précise, nous le commenter, développer un point de vue par rapport à ça, ils peuvent aussi nous envoyer leur contribution qu'on publiera dans le bulletin ou sur la page Facebook. Et puis dans le prochain bulletin, celui qui sortira peut-être dans 2-3 jours, on fait un petit point aussi autour du rapport.
C'était la question du coup que je me posais parce que donc il y a eu les 13, maintenant 14 bulletins d'information ici les habitants. Il y a aussi eu un certain nombre de réunions de citoyens. Est-ce que ces réunions des habitants faisaient office un peu de réunions de rédaction pour ici les habitants ou comment ça fonctionne? Les contributions, ce qu'on se dit qu'on va publier et le contenu des discussions pendant les réunions citoyennes?
Non, alors pendant les réunions, on ne parle pas trop du bulletin, on est plutôt à échanger des informations et à se poser la question comment on continue à bien comprendre ce qui se passe dans cette communauté de communes et comment éventuellement on peut avoir des actions pour aller dans un sens où l'information et éventuellement l'association à la réflexion puisse être plus importante avec les habitants. Alors, les réunions publiques, il y en a eu un certain nombre avec des nombres variables de personnes. La dernière réunion qui avait lieu à Crozes, c'était la semaine dernière, où on n'était pas très très nombreux, hein, mais où, du coup, c'est bien, c'est pas toujours les mêmes gens, du reste, on voit que ça passe, il y a des gens qui viennent jeter un peu un coup d'œil et puis qui reviennent une deuxième fois ou qui ne reviennent pas, etc. Et par exemple, à la dernière réunion, était évoqué, il y avait le maire d'une petite commune qui disait, nous, le problème, c'est moi, je reçois les papiers de la Comcom quand on doit prendre une décision 3 jours avant, c'est épais, on ne comprend pas tout, il y a des choses où il faudrait qu'on soit plusieurs à réfléchir, etc. D'où, par exemple, on s'est dit, tiens, est-ce que ça pourrait être intéressant qu'un groupe d'habitants et éventuellement des élus des petites communes qui souhaitent s'associer à ce groupe-là, avant chaque conseil communautaire, on se réunisse avec les documents pour échanger dessus. Il ne s'agit pas de dire à l'élu ce qu'il doit faire, mais d'essayer de les lire ensemble.
De les comprendre ensemble.
De les comprendre ensemble. Et puis, vous savez bien, un document, un texte, une résolution, tout ça, il y a différents points de vue de le voir. Donc, quelqu'un peut dire, bah oui, c'est pas mal, c'est intéressant. Puis d'autres qui disent, oui, mais ça pose telle question. Donc, voilà, de faire un travail un petit peu comme ça. Donc, voilà, une idée qui a été lancée à la dernière réunion et qui sera sans doute mise en œuvre. Donc, par exemple, s'il y a des conseillers municipaux, des maires ou des habitants sans mandat électif qui se disent bah tiens moi ça m'intéresserait effectivement de mieux comprendre les décisions qui vont être prises dans le prochain conseil communautaire, voilà, manifestez votre intérêt à la même adresse ici les habitants et puis on va se tenir au courant et s'il y a une réunion qui va être organisée autour d'un sujet par rapport à une décision qui doit être prise, ben voilà, ça sera l'occasion de faire un petit travail ensemble de décryptage et de compréhension de ces documents qui sont quand même j'irais pas, c'est pas forcément compliqué, mais je veux dire, c'est des documents qui, enfin,
ils ont un langage particulier, certainement.
Oui, et puis on l'a vu, moi j'ai assisté à plusieurs conseils communautaires où des élus divers et variés disaient on a eu les documents que maintenant, on n'a pas eu le temps de les lire. Voilà, c'est bizarre comme fonctionnement. Donc ça veut bien dire que si on se donne pas un petit peu des outils comme celui que je viens d'évoquer, ça changera pas.
Est-ce qu'il y a des, pas des procès-verbaux, mais des scribes, ou en tout cas, est-ce que vous répertoriez un peu toutes les idées de renouvellement démocratique qui peuvent émerger pendant ces conseils citoyens, ces réunions citoyennes?
Alors bon, il faut être quand même très modeste, hein, parce que ce qu'on fait, c'est, je veux dire, les gens qui se réunissent dans ici les habitants. Alors pour répondre peut-être à votre question, pour aller plus loin, effectivement, c'est pas pendant les réunions qui ont eu lieu que se définit le bulletin, mais il y a un petit groupe de 6-7 personnes qui ont le souci de faire ce bulletin. Alors moi j'en fais partie, il y en a donc 6 ou 7 autres. Moi, je pense que je n'ai pas écrit grand-chose dans les 14 numéros du bulletin. C'est d'autres personnes qui ont fait ce travail-là. Ce n'est pas forcément, du reste, juste les gens de ce petit groupe. Il y a aussi des gens qui nous envoient des informations ou des petits textes. Mais voilà, donc c'est un petit groupe qui ce n'est pas dans les réunions qu'on fait ça, parce que du coup, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Mais pour répondre à la deuxième question qui était comment on note, on relève tout ce qui peut se dire. Voilà, on avance à petits pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'y passe pas nos journées non plus. Donc du coup, on se dit, voilà, faisons déjà ce travail d'information, ce travail d'expression d'un certain nombre d'habitants qui ne laissent pas les choses couler et rouler toutes seules. Faisons peut-être ces réunions qu'on a évoquées pour préparer des conseils communautaires avec des conseillers municipaux ou des maires qui souhaiteraient le faire. Voilà. Attendons de voir et surveillons de voir ce qui se fait au niveau des modifications de statut et de règlement intérieur. Voilà. On avance vraiment à petits pas, avec sans doute beaucoup d'ambition et peut-être un peu d'utopie, en se disant que de toute façon, c'est pas un chantier qui peut se faire en 3 mois. C'est vraiment un chantier sur le long terme.
Alors il est prouvé, c'est comment dire, appuyé par la région.
Oui, c'est l'État, hein, c'est la direction régionale des finances publiques, donc c'est le représentant de l'État en région.
Donc oui, le rapport mentionne bien le fait qu'il y a eu des problèmes de gouvernance, peut-être de statut, et qu'il y avait vraiment une opacité au niveau du fonctionnement financier qui était vraiment pas collectif. Oui. Et que effectivement les vice-présidents et différents membres du conseil communautaire ne pouvaient pas avoir véritablement accès aux informations. Donc ça, c'est pour le coup pointé par l'État. Ici, les habitants ou les citoyens qui participent à ces réunions donc ont pour souci d'aller plus loin que juste la transparence des élus vis-à-vis des élus. effectivement, à lire ici les habitants, on se rend compte que vraiment, c'est la crise politique qui est mise en avant. Dans le dernier bulletin, il y avait démocratie représentative, démocratie participative. On peut peut-être en lire quelques extraits. Alors, dans le bulletin numéro 13, il est d'ores et déjà affirmé qu'une ouverture des commissions aux habitants est impossible car il y aurait trop de monde et il deviendrait difficile de travailler.
Donc, oui, alors, bon, moi, je ne sais pas si c'est une bonne idée et si c'est le meilleur outil que les commissions soient ouvertes aux habitants, mais ça vaut le coup de se poser la question. Moi, je pense que oui. Je pense que oui, si tant est que ça se fasse non pas sous une espèce de contrainte où on dit « bon, les habitants nous font chier, on va leur donner 3 strapontins et puis on verra comment ça se passera. Au bout de 3 réunions, ils en auront peut-être marre et ils ne viendront plus. Dans une des réunions d'habitants qui a eu lieu à Aubusson il y a à peu près un mois, il y avait une conseillère communautaire qui était là, une dame qui était conseillère municipale aussi à Aubusson, et qui a dit, mais dans les commissions, il y avait des habitants dans certaines. Alors, j'ai effectivement eu les échos de deux personnes qui faisaient, par exemple, partie de la commission culture, qui se trouve y avoir participé, mais qui me racontaient comment ça se passait. C'est-à-dire qu'il s'agissait de distribuer des subventions à des associations qui en avaient fait la demande. Et il y avait une subvention assez importante pour une association où ils estimaient que c'était peut-être un peu important ou disproportionné. Et de toute façon, comme ils avaient déjà distribué beaucoup d'argent, il ne restait pas la somme qui était demandée par l'association en question. Donc voilà, la conclusion, c'est que ça aurait été de dire, voilà, ça ne sera pas exactement la somme que vous aviez demandée, etc. Mais en réalité, à la fin de cette commission, la présidente de la commission a dit, ah oui, mais là, de toute façon, on est obligé de la faire parce que Michel Moine s'est déjà engagé vis-à-vis de l'association. Donc ça veut dire que si vous réunissez une commission, que ce soit du reste avec des élus ou avec des habitants ou peu importe les gens qui sont dedans, mais que le travail de cette commission ne sert à rien puisque de toute façon, auparavant, il y a eu des engagements qui ont été pris. Voilà, c'est pas la peine de jouer ce jeu-là. Alors, le fait de dire s'il y a trop d'habitants dans les commissions, ça va pas fonctionner, c'est une manière de botter en touche et de pas ouvrir les commissions et de pas avoir envie de travailler avec les habitants. Parce que avant de le dire, il faudrait essayer de le faire. Et moi, je suis un adepte de l'expérimentation, c'est-à-dire que si, tant qu'on ne me prouve pas, non pas de manière théorique ou avec des phrases toutes faites, en disant on va être trop nombreux, on ne va pas pouvoir discuter, ça ne va pas fonctionner, eh bien, je demande qu'on essaye. Et si on est trop nombreux, on essaye d'être moins nombreux, mais on essaye d'équilibrer les représentations. Si on dit que l'avis des habitants ou des citoyens est important, eh bien, on fait en sorte de trouver le moyen de l'entendre et de l'écouter. Si on pense que leur vote une fois tous les 6 ans suffit, on le dit et on claque la porte. Voilà, du reste, c'est ce qu'avait dit Michel Moine avec beaucoup de clarté à un conseil communautaire il y a 2 ans, celui où on était descendu en force et avec un petit peu de violence, ça avait un peu brusqué les élus. Donc là, il y avait une autre stratégie qui avait été adoptée, hein, celle des plus pacifique, plus faire appel à la raison, à l'écoute. Et je crois que du reste, ça marche en partie. Moi, j'ai eu l'occasion, je pensais à cette réunion d'habitants à Aubusson, où il y avait 3 conseillers communautaires qui étaient là et avec lesquels on a pu parler. Ça ne veut pas dire qu'on a fait des choses avec eux, ça veut pas dire. Mais voilà, au moins on s'est parlé, on s'est écouté. Ah bah c'est déjà un sacré pas en avant. Le problème, c'est que tous les élus, évidemment, ne sont pas dans cette démarche-là et que, en particulier, celles qui a la mission de ce qu'on appelle la démocratie participative, est à peu près à l'antipode de cette démarche-là, ce qui pose un problème. Mais ça, c'est le problème du conseil communautaire et du bureau de Creuse-Grand-Sud aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'est un peu comme si vous mettiez le boucher à la charger de l'animation des troupeaux de moutons. Vous voyez ce que je veux dire pour leur permettre d'être heureux et voilà.
Bon, il faut voir avec les autres élus dans une démocratie participative idéale. J'ose espérer qu'il n'y aurait pas un seul élu chargé de la question. Donc ce serait le la nécessité pour tous, quoi.
Ben, ça serait tout à fait ça. C'est évident que c'est quelque chose qui doit être transversal et ça peut pas être un poste. C'est une manière de fonctionner, c'est une manière de penser. C'est un peu comme si, effectivement, on parlait du roi et de la royauté tout à l'heure, le roi disait qu'il avait un ministre chargé de la République. Ça n'aurait aucun sens.
On parlait d'une réunion des habitants à Aubusson. Il y en a eu à La Noaille. La dernière...
À Crozes.
À Crozes. Bon, il y en a eu, j'imagine, j'ai vu à Feltin.
Il y en a eu à Feltin, il y en a eu deux à La Noaille, voilà.
Donc, il y a eu vraiment une transversalité, je ne sais pas si le terme est bon, entre, disons, la plaine et le plateau. Je suis arrivée assez récemment sur le territoire. Je me suis rendu compte lors d'un conseil communautaire, celui où le nouveau bureau a été élu, que mine de rien, il y avait peut-être une sorte de fracture, comme ça en tout cas elle a été mentionnée, entre la plaine et le plateau, l'ancienne communauté de communes et la nouvelle grande, enfin les anciennes communautés de communes et les nouvelles grandes communautés de communes. Du coup, les réunions citoyennes ont vraiment été organisées un peu partout, en dehors de ces clivages géographiques. Est-ce que vous avez une idée des origines des contributeurs à la lettre d'ici les habitants? Il faut noter donc qu'il y a une certaine part qui est anonyme, une part qui est signée. Il y a comment ça se fait donc cette diversité entre anonyme et signé et puis qui
alors,
participe.
En fait, il y a des articles, par exemple, on a fait dans le numéro 10 tout un dossier sur les compétences. Alors, on a dressé le tableau des compétences de Creuse Grand Sud. L'idée, c'était de permettre aux gens qui veulent savoir exactement quelles sont les compétences. Compétences, ça veut dire quels sont les domaines qui relèvent de l'intervention de la communauté de communes.
Leurs charges. On peut les retrouver dans le rapport de la région.
Voilà. Alors, quand on fait un tableau comme ça, il n'y a pas besoin de le signer. Quoi. C'est, voilà. Alors après, la question de est-ce que... les gens qui écrivent dans le bulletin, il y a des gens du plateau, il y a des gens de la plaine, c'est varié, c'est pas une ou deux personnes qui font ce bulletin toutes seules. J'ai pas compté, j'aurais dû le faire, mais je pense qu'il y a au moins une douzaine de personnes qui ont contribué, peut-être même plus, une douzaine de personnes qui ont contribué à ce bulletin au moins. Une fois que j'ai dit ça, je perds le fil de la question.
Vous avez à peu près tout dit, en fait.
Ah oui.
Il y avait cette question de l'anonymat, quand même.
Alors oui, les élus de la Comcom nous le reprochent. En disant « oui, vous n'êtes pas transparent parce que vous êtes anonyme ». On n'est pas du tout anonyme. Du reste, moi, je parle à ce micro parmi les groupes d'habitants. Les gens, ils savent très bien qui je suis. Les élus qui sont venus aux réunions, ils ont très bien vu qui étaient les habitants qui étaient à ces réunions. Il y a quelques textes qui sont effectivement signés. Bon, mais nous, notre point de vue là-dessus, c'est de se dire dans une démocratie participative ou même peut-être seulement représentative idéale, on pourrait tous signer sans avoir de soucis. Il se trouve que dans le passé récent, on a eu des exemples où, par exemple, la communauté de communes a fait des rétorsions vis-à-vis de certaines structures auxquelles appartenaient des gens qui les critiquaient. Une très bonne raison de ne pas signer les articles quand on dit qu'on n'est pas d'accord avec la communauté de communes. Donc la question de la signature des articles, ce n'est pas une question qu'il faut nous poser à nous en nous disant « pourquoi vous ne signez pas vos articles ?» Mais c'est une question que les élus eux-mêmes devraient se poser à eux en se disant « pourquoi ?» pour pouvoir parler un certain nombre d'habitants, pour pouvoir s'adresser à nous, pourquoi un certain nombre d'habitants ne signe pas ou n'ose pas signer. Et ça, c'est à eux de se poser cette question.
Vous parliez de mesures de rétorsion. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Oh bah, c'est un exemple. Il est même paru dans La Montagne maintenant. Donc, il est presque de notoriété publique. Ça date de Michel Moine, qui était quand même un grand démocrate, comme chacun le sait. Et donc, une société coopérative qui s'appelle Larban, qui travaille sur le logement, avait un contrat avec la communauté de communes. Et ce contrat a été rompu parce qu'il se trouve qu'à l'époque, j'étais président de cette société coopérative et que par ailleurs, je suis en tant que citoyen aussi un des membres bénévoles de l'équipe d'IPNS et que IPNS n'avait pas écrit des articles élogieux sur Michel Moine. Donc, je veux dire, ce n'est pas un fantasme de notre part. Hein. Michel Moine a clairement dit en réunion de bureau à l'époque, devant de nombreux élus, on a un contrat avec eux, et puis d'un autre côté, ils nous tapent sur le dos dans leur journal. Voilà, en mélangeant les genres avec beaucoup de confusion du reste. Voilà, donc on annule ce contrat. Ouais, c'est un contrat, du reste, il y a un contentieux qui est en cours, puisqu'il n'y avait pas de faute de grave. Ça n'a évidemment rien à voir avec l'objet des articles qui avaient été
voilà. Écrits.
Bon, donc c'est un exemple, voilà.
La politique, souvent, on regarde ça peut-être de loin, on se dit que c'est un peu la valse des égos. Parfois, on a envie de se résoudre à se dire, bon, ça les concerne, les uns ou les autres. Mais je sais donc de source sûre, puisque c'est vous qui me l'avez donné, qu'il va paraître dans le bulletin ici les habitants numéro 14. Voilà, on pourrait prendre par exemple l'exemple d'Isabelle Grand, qui était donc présidente de l'établissement public industriel et commercial, l'Office du tourisme, qui a été victime, je ne sais pas, enfin.
Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que pour bien comprendre la situation, il faut savoir que le tourisme est une compétence de la communauté de communes. Donc c'est la communauté de communes qui a réorganisé depuis 2 ans sur le territoire sur son territoire l'organisation touristique. Et ça s'est traduit entre autres par la fusion des 2 offices de tourisme d'Aubusson et de Felletin, et par la création, mais c'est la loi qui explique que ça doit fonctionner comme ça, d'un EPIC, donc un établissement public
industriel et
commercial, voilà, qui donc dépend, on va dire, de la communauté de communes, qui est l'organe qui fait fonctionner ces offices de tourisme. Donc Isabelle Grand, qui était à l'époque vice-présidente, entre autres chargée du tourisme, en était la présidente, et là, elle n'a pas été réélue vice-présidente, et donc le nouveau président de la communauté de communes, Jean-Luc Léger, lui a demandé de céder la place au nouveau vice-président. Alors, tout cela n'est pas illégal,
c'est pas traduisible en justice.
Non, pas du tout. Enfin voilà, il y a aucun problème. C'est possible et du reste c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un vote pour faire que le vice-président chargé du tourisme soit à sa place président de l'office de tourisme. Or pourtant Isabelle Grand, je crois, et personne ne le conteste, a très bien fait son boulot. C'est un boulot qu'elle aimait faire, qu'elle trouvait intéressant. En plus du fait qu'elle était plus vice-présidente, ben, je pense qu'elle avait un peu plus de temps, elle aurait pu encore passer plus de temps sur ce poste-là. Mais non, le fonctionnement politique, c'est je suis élu, donc je veux tout contrôler. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc, il faut mettre Gilles Payet, nouveau vice-président du tourisme, à la tête de l'Office de tourisme pour maîtriser ça. Mais ça, c'est voilà, le fonctionnement d'hier. C'est le fonctionnement politique qu'on ne veut plus. Et Gilles Payet, il est déjà vice-président chargé de l'économie, du tourisme, etc. Mais il aurait déjà 100 fois de quoi s'occuper toutes ses journées sur ce poste-là, sans avoir en plus à prendre la responsabilité de l'EPIC, Office de tourisme. Donc il y avait quelque chose d'intelligent, avec une personne compétente, qui connaissait bien les dossiers, qui était là depuis 2 ans.
Dans cette lettre, elle parle du travail qu'elle a effectué. Ça me fait penser un peu au bilan qu'ont donné Thierry Letellier et Catherine Moulin lors de leur candidature à leur réélection. Voilà, tous les deux ont opéré le bilan de leurs actions, là où ils en étaient, ce pourquoi ils voulaient continuer pour une durée de 6 mois. Donc Isabelle Grand, à son tour, propose en tout cas dans cette lettre quelque chose de ce style, son bilan, en mentionnant aussi qu'un partenaire qui peut aider à accentuer son travail,
son action
sur le tourisme, c'est donc le PNR, dans PNR de Parc Naturel Régional de Mille Vaches. Donc elle mentionne que 13 communes sur les 26 en font partie et qu'elle fait partie du bureau de ce même PNR, et donc elle pourrait être un lien entre les structures, ce qui montre une volonté de travailler en bonne entente avec les différents acteurs du tourisme sur le territoire. Ça n'a pas, apparemment pas été entendu.
Non, mais je pense que... Alors, ça n'a pas été entendu, effectivement. Elle a été éjectée par 13 voix contre 9 et 2 votes blancs. Donc, ça veut dire que les avis étaient quand même partagés. Moi, je trouve dommage que les compétences du plus grand nombre ne soient pas conservées et associées autour de projets qui concernent l'ensemble de la collectivité.
Pardon, excusez-moi, j'étais en train de relire la lettre d'Isabelle Grand.
Je disais juste que c'était dommage que toutes les compétences et volontés, à partir du moment où elles s'inscrivent dans le projet global de la communauté de communes, ce qui était le cas sur ce dossier, ne soient pas conservées, mobilisées. Et voilà.
D'autant plus que donc il y a dû avoir un vote, ce qui n'était au final pas souhaité au départ. On lui a demandé de partir, elle a dit non, donc le vote a eu lieu.
Oui, tout à fait. Elle dit même dans sa lettre que Jean-Luc Léger l'a menacé clairement de ne pas verser le solde de la subvention et, entre guillemets, d'étrangler l'EPIC, c'est-à-dire l'Office de tourisme, si elle ne quittait pas la présidence. Bon, voilà, il faut que les élus... qui font un boulot quand même pas évident, hein, qui est difficile, où ils sont... Je me mets un peu à leur place. C'est compliqué. Hein, et puis alors, en plus dans la situation actuelle. Mais il faut quand même qu'ils se posent à chaque fois la question, mais est-ce qu'en faisant ça, je perpétue des habitudes et des traditions qui sont de plus en plus contestées? Ou est-ce qu'en faisant ça, je fais réellement avancer le schmilblick sur le dossier en question? Je pense que sur ce dossier-là, on est typiquement sur quelque chose qui était, le vice-président du tourisme, il doit avoir l'office du tourisme. Voilà, et donc, à août, Madame Grand. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une erreur. Bon, je le dis là, on pourra en débattre avec Jean-Luc Léger et Gilles Payet. Je serais curieux de connaître leurs arguments. Alors, je sais que leurs arguments, ça va être, c'est la cohérence, ces trucs. Le vice-président du tourisme, s'il est à l'office de tourisme, ça veut dire qu'il a globalement, c'est plus cohérent, etc. Mais non, c'est complètement pas cohérent. C'est plus de travail. Il aura pas le temps de bien faire son travail ni dans un lieu ni dans l'autre parce qu'il peut pas tout faire. Moi, je vois bien, je côtoie des élus de près, je vois le nombre de réunions, le nombre de paperasses, le nombre d'interventions qu'ils sont obligés de faire.
Il y a aussi cette chose incohérente de se dire que tout est plus simple dans la tête d'un seul homme alors que les compétences ne sont beaucoup plus riches, réparties entre plusieurs personnes.
Oui, et c'est exactement ce raisonnement-là qui pourtant a été montré avec l'affaire Moine. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la communauté de communes, c'était Michel Moine qui décidait quasiment de tout. C'est comme ça que ça fonctionnait. Bon, et bien voilà le résultat. Alors, je ne dis pas que Gilles Payet sera nul sur ce poste-là, mais je pense qu'on le met, lui, Gilles Payet, dans une situation où il pourra moins bien faire son travail que si la personne... Par exemple, Isabelle Grand, qui avait conservé ce poste, aurait continué à le faire. Voilà, ce serait intéressant d'en débattre avec eux, si tant est qu'ils acceptent d'en parler avec les habitants.
Bon, alors on peut rappeler donc qu'il y a cette question de gouvernance très très importante à la communauté de communes Creuse-Grand Sud, mais qu'il y a aussi une situation économique absolument désastreuse. Que la seule manière de s'en sortir, en tout cas celle qui est prescrite par le rapport
des finances publiques,
c'est de vendre le
foyer d'accueil médicalisé de Gensiou.
De Gensiou, donc à 5,5 millions d'euros. Est-ce que sur cette situation économique, vous avez quelques informations à nous donner ou quelque chose à dire ?
Alors non, j'en sais pas plus que ce qu'il y a dans le rapport. Ce qui a été dit plus d'une fois, y compris par des élus en conseil communautaire, c'est en gros, on va être obligé de le vendre, ce FAM. C'est ce qu'ils disent, hein, je porte leur parole. On n'a pas le choix. Hein, quand vous avez un trou de 5 millions et que vous avez un actif qui vaut à peu près la même somme, qui est vendable et où il y a éventuellement un acheteur derrière, eh ben, on le vend et puis on revient à zéro. Mais ce que notent un certain nombre d'élus, ils en sont tous conscients, hein, c'est qu'ils perdent aussi une rentrée financière annuelle estimée à 250 000 euros. C'est-à-dire que ce qui correspond au loyer que paye actuellement l'association qui est locataire de ces bâtiments. Donc évidemment, on va résoudre un problème, c'est-à-dire le trou, on va boucher le trou, mais d'une part, on bouche le trou avec la vente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vendu, on a plus bâtiments, mais on est juste avancé, on a juste bouché le trou, quoi. C'est-à-dire qu'on est...
On n'est pas riche.
On n'est pas riche, voilà. On n'est pas riche du tout. Mais on perd aussi donc 250 000 euros par an de revenus. Donc, on fait juste le calcul vite fait.
Ça fait 10 ans.
Ça fait 20 ans. Mais voilà, ça veut dire que 250 000 euros en moins sur le budget annuel de la communauté de communes, ce n'est pas tout à fait négligeable. Ça doit être, alors j'ai peur de dire des bêtises, 2,5%. On ne peut pas dire que ça soit tout à fait n'importe quoi. Donc c'est dommage, mais c'est le résultat de la gestion moine. Et c'est le résultat de l'enthousiasme et peut-être de la naïveté d'un certain nombre d'élus qui ont cru que tout se passait bien alors que tout ne se passait pas très bien.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Eh ben, c'est juste ce que j'ai, ce que je peux dire, c'est que bon, je crois que la chose publique, la chose politique appartient à tout le monde. Et donc, tous les gens qui le souhaitent, qui veulent dire quelque chose par rapport à cette situation sur la communauté de communes, qui ont des informations, qui ont des idées, qui ont des suggestions à faire, qu'il soit n'importe qui, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être élu conseiller municipal, voilà, c'est un appel à l'ensemble des habitants, qu'ils n'hésitent pas à écrire à ici les habitants pour donner leur point de vue, donner leur avis. Du reste, il y en a plusieurs qui nous ont contactés. Il y a des articles ou des choses qui sont en cours suite à des interpellations d'habitants. Par exemple, autour du boulodrome d'Aubusson, il y a des gens de Feltin qui nous ont contactés pour nous dire comment ça s'était passé. C'est vrai que c'est assez intéressant. Donc, on en parlera dans un prochain bulletin. Voilà. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez des suggestions, vous pouvez les adresser. C'est pas nous qui allons faire pour les gens, hein, mais c'est à nous, habitants de manière collective, de prendre ça en charge, de prendre la parole, de donner notre point de vue et de faire en sorte que le système ne se remette pas à tourner en rond sans nous, hors de nous et dans une petite ronde qui va mal finir, quoi.
Donc le contact, c'est ici les habitants, tout attaché et au pluriel, @illico.org. Et avant de nous quitter, moi j'aimerais rappeler donc pour les habitants des communes de Faux-la-Montagne et de La Ville-Dieu qu'une réunion publique sur l'avenir de ces deux communes dans le contexte intercommunal actuel aura lieu le mardi 6 décembre à 20h à la salle des fêtes de Faux-la-Montagne. Parce que bon, dans ces circonstances, certaines communes se posent la question de leur avenir, tout simplement, au sein de cette communauté de communes.
Du reste, il n'y a pas que Faux-la-Montagne et La Ville-Dieu qui se posent cette question, puisqu'il y a trois communes sur à l'autre bout de la communauté de communes qui font des démarches, qui se posent la question de rejoindre les communautés de communes limitrophes. Je crois qu'il y a Saint-Mexan, il y a Saint-Avit-de-Tarde et puis Aléra qui se posent sérieusement la question.
Michel Lulek, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir et puis à une prochaine pour de nouvelles informations.
Oui, ce sera sans doute un autre habitant que moi en tout cas qui viendra si on doit reparler d'ici les habitants.
Merci beaucoup.